mouillé.
Jusqu'au mot.
Nous sommes en l'an 4719 du calendrier chinois. Le Groenland se fait liposucer sa glace par les vagues de chaleur successives. Pendant que le niveau des océans monte, la revue Ancrage équipe et déploie cette bouée de sauvetage littéraire préventive pour sauvegarder une part d'oralité de la côte orientale.
Bonjour tout le monde, bienvenue à ce troisième épisode du podcast de la revue Ancrage. Moi, Joël Boilard, je suis avec la splendide, intelligente, magnifique Georgette Leblanc.
Fatigante, oui.
Ouais, pas fatigante tant que ouais. Ça. On a un mariage forcé, mais on finit toujours
on par... On s'arrange.
On s'arrange avec ça.
J'ai couché nos corps. Leur retaille. Sous nos abris jadis bricolés du cœur, nos regards parallèles fixant droit devant la ceinture de la terre. Alors, l'horizon s'est ouvert, avalant toutes ces nuits, tues à présent fatiguées, caillées d'étoiles mortes.
C'était Émilie Turmel.
Donc, le numéro 18 d'Ancrage, ça s'appelle le PPP, le Projet Poétique Planétaire. C'est un numéro qui a été fait sous le signe de la contrainte littéraire. Là, je ne sais pas si tout le monde connaît un peu ce que c'est la contrainte littéraire. En fait, en le disant vraiment vite, là, c'est juste de se mettre un peu de bâton dans les roues ou de forcer l'espèce de début de création. Je sais pas, toi, tu donnes le cours de création littéraire, poésie à l'université. Est-ce que tu procèdes avec des contraintes?
Full contraintes. Je les oblige, je les force. C'est comme terrible. Ils sont en train de vivre.
Terrible,
genre? Ouais. Non, c'est ça, je les oblige. Ils sont pas libres du tout. Ça me fait plaisir.
Ils sont attachés
ouais.
après la
fournaise. Ils sont attachés à la forme. Ils sont attachés même à la voix, à tout. Comme je les oblige de me suivre. Puis sinon... C'est l'enfer.
Mais est-ce que tu leur donnes des contraintes comme précises? Donc,
oui.
T'écris, t'as pas le droit de dire, d'employer telle lettre,
ben,
par exemple?
Ou... Non. Pas des contraintes. C'est autre chose. C'est pas le PPP. Puis, ils n'ont pas le droit d'inventer. Donc, il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils écrivent. Il faut qu'ils s'inspirent d'un moment vécu, de quoi de vrai. C'est comme on parle de réalité, on parle d'expérience humaine, on parle de leur histoire personnelle, on parle du vécu.
Holy shit!
C'est lourd.
Puis souvent, avec la contrainte, tu as des surprises quand même intéressantes.
Oui,
là.
Oui.
Avec le cadavre exquis et les mélanges de mots aléatoires, des fois, le sens te frappe, puis là, tu t'en sers après.
C'est ça.
Autrement que par la contrainte, mais tu ne l'aurais pas eu sans la contrainte.
Exactement. Hein. Puis ça, j'apprécie ça. Ça fait du bien. Puis c'est justement, si tu es trop pris par le sens et puis par la volonté de créer un sens, et puis tout ça, ça souhait. C'est comme une petite médecine, petite pilule belle, fun. C'est comme angoissant, je sais pas. Il y a comme trop de possibilités. Ça fait que moi, je me dis, la contrainte, elle m'aide dans ce sens-là. Si... En fait, moi, dans mon travail, c'est d'arriver à la contrainte. Parce qu'il y a comme une zone de chaos total avant de commencer à écrire ou avant même des projets d'écriture où je ne sais pas du tout ce que je voudrais écrire ou je ne suis pas trop sûre. Il y a des thèmes qui m'intéressent puis je patauge dans le néant. Il faut que j'arrive à la forme. La forme devient la contrainte. J'aime cette contrainte. J'ai besoin de contrainte. J'aime ça. J'aime pas une carte blanche. Ça m'angoisse.
Mais c'est souvent.
Puis c'est ce que toi, tu as besoin. Ça t'en prend une contrainte. Moi, il faut que tu commences à écrire. C'est l'autre objectif du podcast. C'est que Joël Boilard publie son premier recueil.
Is it though?
Yeah!
Moi, je pensais que c'était juste une façon de ne pas avoir à gérer mes enfants un jeudi matin. Un des groupes qui ont été à l'avant-plan là, pour la diffusion de ces concepts-là de contraintes, c'était l'Oulipo.
Ah ben, l'Oulipo, ça veut dire ouvroir de littérature potentielle. C'est un groupe d'écrivains et de mathématiciens, initialement, qui a été créé, fondé en 1960. Donc, c'est pas tout jeune. Hein. Donc, c'était un groupe de recherche en littérature, à partir des contraintes, des formes, des procédures, des algorithmes, des choses comme ça. Un groupe qui essaye de réfléchir peut-être à une sorte de réconciliation entre les disciplines scientifiques et littéraires, notamment pour les fondateurs de l'Oulipo, alors le recours à la mathématique pour faire de la littérature. Voilà, ça c'était leur objectif initial. Le plus connu des fondateurs, c'était Raymond Queneau, le bien connu poète et romancier du XXe siècle, et le moins connu, son compère, François Le Lyonnais, qui était lui plutôt un homme de science et de vulgarisation des sciences. Et c'est probablement lui la véritable tête pensante de la fondation de l'Oulipo à l'origine.
Jacques Jouet est un poète, romancier, nouvelliste, auteur de théâtre. C'est aussi un essayiste et un artiste plasticien. Depuis 1983, il est membre de l'Oulipo.
Le 26 juillet 2017, Beaubassin Est, poème adressé à Véronique Kessy. Au fin fond du placard aux poêles et casseroles, avance un tentacule, au risque de réveiller la maison, jusqu'à l'appentis derrière. Qu'est-ce que tu cherches avec tant d'énergie? La source du relent de homard, un chagrin, le coupe-ciboule, des graines de piment doux, avec en elle un sacré silo de la grande histoire.
Pour ces gens-là qui venaient de... qui voulait faire de la littérature à la grande époque, à la fois post-surréaliste et à l'époque de l'engagement, de la nécessité de l'engagement tel que Sartre la définissait. C'était une façon de, non pas d'aller voir du côté du pourquoi écrire de la littérature, mais plutôt du comment déjà. Et pour ça, d'aller chercher des pistes un peu, peut-être un peu nouvelles, notamment en ayant recours aux mathématiques. Alors, je sais pas, je peux peut-être donner un exemple. Quand Queneau découvre que Arnaud Daniel, un troubadour du XIIe siècle, fabrique des poèmes avec un système de permutation de rimes, enfin de mots rimes plus exactement, assez complexe d'un point de vue mathématique, là ils sont au plafond de bonheur et ils disent voilà, ça, c'est ça notre modèle, c'est-à-dire qu'il faut faire de la littérature comme ça. Et le premier livre qu'il écrit de cette façon, c'est les 100 000 milliards de poèmes, hein, 10 puissance 14 poèmes, qui est un livre de poésie combinatoire, donc il fait appel à un concept mathématique, la combinatoire, pour composer des poèmes. Donc voilà, ça c'est un acte aussi fondateur de l'Oulipo, puisque le livre paraît exactement au moment de la fondation de l'Oulipo. Ben, j'ai été stagiaire d'un atelier d'une semaine qui avait été organisé par l'Oulipo en 1978. Moi, à l'époque, j'avais une trentaine d'années, j'avais 30 ans, et je commençais à publier un petit peu, mais tout seul dans mon coin. Donc, je me suis inscrit à ce stage, cet atelier, ce workshop, comme on dit. Et c'est comme ça que j'ai rencontré la première fois les Oulipiens, c'est-à-dire, en l'occurrence, Pérec, qui était encore vivant à ce moment-là, Jacques Roubaud et Paul Fournel. Et ensuite, 5 ans après, j'avais continué à entretenir des relations avec eux. Et 5 ans après, voyant que c'était un mode de travail qui m'intéressait, le groupe m'a proposé de le rejoindre. Au total, on doit être 42, je crois, ou 41 ou 42 maintenant. Quand je fais ce compte-là, on compte évidemment ceux qui sont excusés pour cause de décès, puisque c'est la formule, mais qui sont encore tout à fait présents, parce qu'évidemment, quand il y a des pointures comme Queneau, Perec, Calvino et compagnie, même s'ils sont morts, les réunions sont tout à fait pleines de leur présence, pleines de leur présence.
Voici Cécile Rioux.
Le 26 juillet 2017, Beaubassin Est, poème adressé à Colleen Adams. Ta rue n'est plus ta rue, c'est une rue ordinaire qui ne mène nulle part. Ta ville n'est plus ta ville, c'est la ville de tout le monde et de n'importe qui n'est pas toi.
Poème adressé à Tania Duclos. Inscrite sur une bouteille de Raid, cet épigramme. La vie est une piqûre, ponctuelle, douloureuse et gonflée de venin. Mais parfois, on se demande où sont les maringouins.
C'était Nathalie Leduc.
Et en 2013, j'ai repris l'idée du poème adressé, c'est-à-dire composer un poème pour une personne en particulier et le lui adresser par la poste, par voie postale. Et moi, je me suis dit, il n'y a pas de raison de privilégier quiconque. Il faut que chaque être humain vivant sur cette planète, la nôtre, reçoive son poème original pour lui. Ce sera son poème. J'ai commencé comme ça, tout seul d'abord, et très vite en demandant à des amis poètes de me rejoindre et qui ont accepté. Et voilà, on a pris le du téléphone du premier département français, l'Ain, A-I-N, l'Ain, 01. Et puis, tous les abonnés au téléphone, dans un premier temps, ont droit à leur poème. Comme ça. Chaque jour, il doit y en avoir un qui s'envole par la poste dans une enveloppe avec un timbre imprimé. Donc, on a fait des campagnes. On a fait deux campagnes au Canada, comme tu sais. On a fait une campagne au Niger, en Afrique. On a fait une campagne à Aarhus, au Danemark, voilà, au Japon. Donc, maintenant, il y a une dimension qui est véritablement planétaire, ça pourrait être projet poétique planétaire potentiel.
Voici Sébastien Loremar.
Deux voix s'entrelacent dans la chair obscure, sur la scène tragique du ciel. Le soleil se lève sur Cluny et se couche sur Nagasaki. J'entends deux voix qui s'entrelacent, je vois deux soleils qui se touchent. Aristote et Jésus, en circonvolution atonale, discutent de l'avenir de l'Acadie dans un jardin japonais. Ce dernier est délicatement couvert d'une fine neige radioactive. Mais qui boira la dernière goutte de lumière qui perle à tes yeux pères? Marie, toujours pure, soupire. Quel formidable ouragan sur l'onde quantique.
On s'est retrouvés en vacances avec Nathalie Leduc et Marc Lapran et Cécile Rioux et moi. On s'est retrouvés en vacances sur la côte, à Grand Barachois. On avait loué une maison pour 15 jours et à ce moment-là, on s'est dit, mais on ne va pas rester là, regarder la mer sans rien faire, on va faire une campagne de PPP. Donc à ce moment-là, on a, grâce à des amis de Marc et de Nathalie qui étaient tout prêts, on a récupéré des adresses, on a composé nos poèmes, on les a imprimés, on les a timbrés, on les a envoyés par la poste, etc.
Voici Marc Lapran.
Poème adressé à Yvonne Roy. Pamphile Lemay, tu réécriras Évangeline de Longfellow et rétabliras la vérité des faits de la déportation des Acadiens. Éric de Dampierre, tu iras en mission au Haut-Oubangui et tu en reviendras passeur de sa richesse poétique orale. PPP, tu iras au Nouveau-Brunswick, écriras 200 poèmes et en liras un 100 à l'église du Grand Barachois le 3 août.
Et puis ensuite, on a organisé un retour de la part de 4 poètes dont tu es, Paul, qui sont des poèmes qui sont parvenus en France auprès d'une population que nous avons rencontrée à Poitiers. Ça s'appelle, l'endroit s'appelle la Ligne Acadienne, puisque ce sont des anciens, des vieux Acadiens, enfin des descendants de vieux Acadiens du moment de la grande immigration qui se sont retrouvés à Poitiers. Donc c'était assez beau cette idée de faire parvenir de l'Acadie canadienne en France, à la petite Acadie française, des poèmes en retour du PPP que nous avions fait à Barachois.
Poème adressé à Madame Chantal Mouy, Châtellerault. Le jour, je m'accroche qu'à un câble, et le soir, j'ai rarement sommeil. J'ai des racines de ronces dans le cœur, leur pousse résonne dans mes oreilles. Je suis pas encore admirable, mais l'aube attendra mon éveil. Je vis pas encore d'algues et de fleurs, demain peut-être, s'il fait soleil.
C'était Marie-Christine Collin.
J'ai habité aux États-Unis quand j'avais 18 ans, en 1936, dans ce coin-là. Il n'y avait pas Internet, évidemment. C'était pas en 1936, c'était les années 90, ça commençait Internet. Puis la seule façon qu'on avait de communiquer, c'était avec mes amis, c'était par lettre papier. Ça fait que chez moi, j'ai des boîtes avec comme, je sais pas moi, 150 lettres. Puis à chaque fois qu'on en recevait une, c'était hyper excitant, puis tout ça.
C'était un moment. Puis il durait à ce moment-là. C'est ça, c'est ce que je m'ennuie de ça. C'est comme, c'était le fun, ça. Mm-hmm. Tu recevais une lettre, puis ça prenait comme une semaine et demie, deux semaines. C'était comme long, il fallait attendre. Les gens attendent, c'est comme, on sait plus ce que ça veut dire, attendre, non. Jeter. Fait que, puis là, tu reçois la lettre, tu lis la lettre, puis tu as le temps d'y réfléchir, tu as le temps de répondre quand tu veux. Il y a pas comme, tu sens pas la pression de la personne qui attend la réponse. Ça assis à son bureau sur la minute, là.
Quand tu reçois une lettre, t'as aussi la calligraphie de la personne qui t'a écrit.
Ouais, ça en dit long.
Puis ça en a dit assez long. Tu sais, moi, ma mère, elle avait un livre de recettes qu'elle avait tout écrit. Écrit à la main, puis ses recettes, puis tout ça qu'elle faisait. Puis si je le regarde, ça me rappelle, elle, là, comme à 100%. Là, c'est... Elle est décédée, là. Fait que, tu sais, je suis incapable de regarder le livre. Tellement que, à cause de la calligraphie, ça, c'est trop lié à elle. Fait que ça donne cet aspect-là de plus, peut-être, pour le PPP, puis envoyer, puis tout ça.
Poème adressé à M. Claude Mass. Un jour magique, il m'invite chez lui, sur la rue Maple. J'arrive à l'heure convenue. Une cassette vierge TDK dans ma back pocket. Je le suis jusqu'à sa chambre, croisant en chemin ses parents, enfauteuillés dans leur décor poussiéreux. J'accède à son antre, un lit et 1000 vinyles. Après son obligatoire bottle talk de hash, il enclenche le play record du magnétophone et positionne l'aiguille sur le précipice. Live at the Witch Trial. Snarly verbiage et minimalisme hypnotique, le premier titre du monde démentiel de The Fall. Merck E. Smith et Merck Godet, face A et face B de mes premiers enregistrements dans l'Underground.
C'était Paul Bossé.
Nous allons maintenant nous entretenir avec David Descaries, qui est un professeur à l'Université de Moncton. C'est aussi un essayiste et l'auteur du roman Les Dessous de Larry's Laundrette.
Oui, bonjour Joël, ça va bien toi?
Oui, ça va bien, ça fait longtemps qu'on s'est vu, ça fait du bien de te voir, même si c'est juste en virtuel, là. Comme on disait tout à l'heure avec Georgette, c'est un numéro qui est sous le signe de la contrainte, là. On a jasé pas mal de différentes contraintes littéraires et tout ça, et on a décidé, David et moi, qui est la personne qui est à l'autre bout du fil présentement, qu'on s'imposerait aussi une contrainte pour l'entrevue. Donc, on verra après ça qui gagnera. Donc, la contrainte, c'est ni oui ni non. Ça veut dire que ni moi ni David auront le droit de dire non au courant de cette entrevue ou cet entretien.
Joël a oublié d'ajouter que le mot « oui » est également interdit aux deux adversaires.
Donc voilà, tout va bien, David, t'es prêt?
J'ajouterais deux contraintes de mon côté. Une contrainte, c'est que je suis rescapé de la COVID et que j'ai accès à 80% de mon cerveau. L'autre contrainte, c'est que le plombier peut sonner à chaque instant à ma porte.
Donc, est-ce qu'on gère la contrainte? Si jamais le plombier arrive, est-ce qu'on l'intègre dans la discussion?
On va croiser les doigts.
J'ai l'impression que le plombier n'aurait peut-être pas grand-chose à dire sur le PPP, quoique chacun a son mot à dire.
Joël, est-ce que vous allez pouvoir couper?
Oui, oui, oui. Oui. Ah, fuck! J'ai dit trois fois en plus! Merde! Puis depuis tantôt, je suis tellement préoccupé à essayer de t'avoir, toi, que j'ai oublié de penser à moi-même. Je suis allé avec trois.
Ouais!
Good, toi aussi, tu viens d'en avoir un, c'est quand même pas pire en célébrant.
Non, j'ai dit,
donc voilà. Ben moi, je l'ai dit en disant aussi. Donc, c'est une contrainte assez complexe, finalement. Moi, je pensais que ça allait être assez simple à faire, mais pas du tout.
Et Queneau aussi, qui a inventé les 100 000 milliards de
Est-ce que tu connais ça, Noël? Oui, mais peut-être pas nos chers auditeurs. Puis toi, tu donnes les cours de création aussi à l'université, puis on en parlait avec Georgette tantôt sur ce qu'on se servait. Puis les deux, on avait l'air d'avoir au moins utilisé en partie ou dans l'idée le texte de Queneau là, sur les différents exercices de style. Est-ce que tu t'en sers toi aussi pour tes cours de création?
Oui, moi! Aïe, aïe, aïe.
Là, pour être parfaitement honnête, la réponse ne m'intéresse pas. Je vais juste te faire dire oui. Ah, oh, je l'ai dit, moi aussi. Oh, fuck. C'est deux filles, hein?
Non.
Yes, trois fois de suite, en plus.
C'est bon. C'est vraiment une bonne question, mais tu veux une réponse?
Oui. Ben oui. Fuck! Ça fait deux fois que je l'ai dit. J'étais en train de me dire quoi? Il est-tu épais, tu vois?
Le score final à la suite du temps réglementaire est de David, 6 et Joël, 12. Donc félicitations à notre gagnant, David Descaries. Mouillé jusqu'au mot. Une production de la revue acadienne de création littéraire Ancrage. Animation Joël Boilard et Georgette Leblanc. Enregistrement, montage, mixage et matrissage Jonathan Saunier. Musique Jonathan Saunier, Christine Melançon et Alpha Romeo. Conception, Jean-Pierre Casey. Coordination, Rachel Dupéreau. Réalisation, Paul Bossé. Nous souhaitons remercier nos partenaires, sans qui ce balado n'aurait jamais vu l'air. Le Conseil des arts du Canada et le gouvernement du Nouveau-Brunswick.